André Azuel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le candidat numéro 13, l'un des 36 concurrents au poste de chef d'État. Pourquoi avez-vous décidé de vous porter candidat ?
Tout d'abord, avant de me lancer à la course à la présidentielle à Madagascar, je me suis préparé. J'ai fait un tournée dans tout Madagascar, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et j'ai constaté l'extrême misère de la population malagasse. Je suis conscient du retard accumulé par Madagascar depuis plus de 50 ans. Il est grand temps donc de proposer et de mettre en œuvre des solutions concrètes et pérennes pour donner un nouveau départ à Madagascar.
Et alors, quels sont vos atouts d'après vous ?
J'ai appris de mes erreurs. Pendant la durée de la transition, je me suis entouré des experts nationaux et internationaux pour pouvoir apporter le développement à Madagascar. Deuxièmement, je suis jeune et 70% de la population a moins de 25 ans. Ce sont des atouts que je peux dire conséquents pour affronter les élections à Madagascar.
La présidence que vous avez exercée entre 2009 et 2014 n'a jamais été vraiment reconnue à l'international. On se souvient de cet affront lorsque par deux fois vous êtes vu refuser l'accès à la tribune de l'ONU en 2009. Aujourd'hui, y a-t-il une volonté de revanche de votre côté, une volonté d'accéder au pouvoir en bonne et due forme par les urnes et surtout de façon démocratique ?
Sous la pression de la communauté internationale, j'ai accepté en 2013 le Nini, c'est-à-dire ni moi-même et l'ancien président Ravalman ne pouvaient pas se présenter aux élections présidentielles. J'ai mis l'intérêt supérieur de la nation à toute autre considération. Je prône pour l'alternance démocratique. Et cette fois-ci, je pense que c'est au peuple malagasy de choisir son dirigeant.
Est-ce que c'est une revanche du coup ?
Je dirais pas une revanche, mais pour moi c'est un devoir d'apporter des projets concrets pour le développement de Madagascar.
Alors nous allons y revenir plus tard sur vos projets concrets. Tout d'abord, quel bilan tirez-vous de vos 5 années passées à la tête du pays ?
Ce que je peux dire, c'est que pendant la période de la transition, la communauté internationale m'a imposé pour gouverner 4 mouvances politiques. Nous n'avons pas les mêmes visions, les mêmes objectifs. Et donc cela m'a handicapé pour apporter le développement que j'ai tant souhaité à Madagascar. Cette fois-ci, je pense que si je serai élu, et je pense que ce sera le cas, je pourrai être libre de mes actions.
Vous dites que vous avez donc été handicapé. Est-ce une forme de reconnaissance que vous n'avez pas eu le bilan positif que vous vouliez ?
Exactement, parce que la feuille de route m'a contraint et surtout ne m'autorisait pas à faire des grands chantiers à Madagascar.
Est-ce que c'est pas une façon aussi de dire si ça n'a pas marché, ce n'était pas vraiment ma faute ?
Je ne suis pas là pour dire c'était la faute à qui. C'était la réalité, il fallait affronter tous les problèmes et ça nous a permis justement de pouvoir démontrer que sans l'aide budgétaire de la communauté internationale, on a pu avancer, construire des infrastructures, également gérer le pays comme il le doit.
De quel type d'infrastructures parlez-vous ?
Nous avons construit des hôpitaux dans les 6 chefs-lieux de province dans tout Madagascar.
Des hôpitaux qui aujourd'hui sont flambant neuf, mais il n'y a rien à l'intérieur.
Oui, parce que c'est ça le problème à Madagascar. Ça a été équipé par des équipements aux normes internationales. Maintenant, ces hôpitaux ont été laissés aux abandons parce que c'est moi qui l'avais construit. Donc moi, j'ai juste un message à passer. S'ils ne savent pas gérer les hôpitaux comme il se doit, je suis prêt à les gérer comme il le faut.
Quelles sont les mesures phares sur lesquelles vous allez faire votre campagne ?
La campagne électorale commence demain. Et la loi m'empêche de vous parler des mesures concrètes. Mais cependant, je vais proposer des solutions concrètes dans les grands domaines économiques afin de rattraper le retard de développement à Madagascar. Concernant l'énergie, depuis que l'indépendance a été retournée à Madagascar,
c'est-à-dire 1960.
1960, nous avons pu installer que 400 mégawatts de puissance de production d'électricité pour 25 millions d'habitants. Ce qui est très peu par rapport aux autres pays africains. Moi, ce que je vais proposer, c'est qu'en 5 ans, je vais doubler la puissance de la production de l'énergie à Madagascar. Pareil pour l'agriculture. Il est inconcevable que Madagascar, aujourd'hui, importe jusqu'à 300 000 tonnes de riz. Or, on était le grenier de l'océan Indien et de l'Afrique dans les années 70. Moi, ce que je propose, c'est que en 5 ans, l'objectif, c'est de mettre en place 100 000 hectares de terres rizicoles afin qu'on puisse produire 500 000 tonnes de riz. C'est-à-dire qu'en 5 ans, Madagascar doit exporter mais ne plus importer du riz.
Comment comptez-vous y prendre justement pour ces très grandes réalisations que vous proposez ?
Nous allons besoin de l'aide avec les bailleurs de fonds traditionnels pour faire les routes, les autoroutes, etc. Pour tout ce qui est partenariat public-privé, nous allons travailler surtout avec des entreprises internationales reconnues mondialement dans le domaine de l'énergie par exemple, dans le domaine de l'industrialisation de Madagascar.
Un chercheur de l'IFRI, spécialiste de Madagascar, Mathieu Pellerin, a expliqué l'an dernier que Madagascar était tombé durant la transition dans une phase de criminalisation de l'État. Sans base électorale réelle derrière vous lors de votre arrivée à la tête de l'État en 2009, vous vous êtes retrouvé prisonnier des puissants acteurs qui vous avaient fait roi. Vous dites alors aujourd'hui que vous avez changé, vous dites que vous avez mûri. Comment la population peut-elle être convaincue que vos fréquentations et vos soutiens ont eux aussi changé ?
Vous m'avez dit que j'avais pas une base électorale. C'est tout à fait faux. Pourquoi ? Parce que en 2007, quand j'ai été élu maire de la capitale de Madagascar, j'ai été élu à plus de 70%.
Une base dans la capitale, pas vraiment de base dans le reste du pays.
Dans le reste du pays, si vous voulez, il y avait eu l'élection législative. Nous avons eu la majorité à l'Assemblée nationale. Durant 4 années, nous avons préparé. Nous avons plus de 800 000 membres aujourd'hui. Concernant mes fréquentations, ce que je peux vous dire aujourd'hui, que la vie m'a beaucoup appris, je me suis bien entouré, j'ai changé et je vais changer. Et je vais tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption.
Est-ce à dire que les trafiquants qui vous ont aidé à arriver au pouvoir et qui vont financer, vous n'êtes plus proche de ces gens-là ?
Ce que j'ai envie de vous dire, que aujourd'hui, je me suis entouré des experts nationaux et internationaux. Moi, je n'aurai pas d'état d'âme quand je vais revenir à la tête du pays. Si vous voulez parler de chiffres, en 5 ans, Madagascar a perdu 27 places au classement de Transparency International. La corruption a été institutionnalisée durant ces 5 dernières années.
Vous bottez en touche quand je vous parle de vos fréquentations. Qu'en est-il aujourd'hui de Mame Ravatoumang ? Je le rappelle pour les auditeurs, Mame Ravatoumang, qui était l'un de vos proches conseillers du temps de la transition, c'est un homme d'affaires dont le nom a été cité dans les Panama Papers et qui est aujourd'hui sous le coup d'une enquête en France pour blanchiment en bande organisée et fraude fiscale. Fait-il toujours partie de votre cercle rapproché ?
Le problème à Madagascar, c'est que quand un opérateur économique malagasse essaye de monter ou de bâtir son empire, on dit toujours que c'est pas clean. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que les hommes d'affaires les plus riches à Madagascar, ce sont des Indo-Pakistanais. Et donc, quand c'est des étrangers qui monopolisent l'économie à Madagascar, c'est normal. Mais quand un malgache essaie de réussir, ce n'est pas normal. Ceci dit, par rapport à votre question, moi, je suis clair et net que je n'accepte pas s'il y ait des affaires louches qui concernent qui que ce soit. Et je suis là pour combattre à cela.
Mame Ravatoumang fait-il toujours partie de votre cercle rapproché ?
Mame Ravatoumang, c'est un ami, parmi d'autres d'amis. Cela ne veut pas dire, et je ne suis pas là pour blanchir qui que ce soit, mais il fait partie des mes fidèles amis.
Vos apparitions publiques sont savamment orchestrées et détonnent avec celles de vos concurrents. Les premiers meetings que vous avez organisés sont fastueux, des shows à l'américaine. Comment financez-vous votre pré-campagne et comment financerez-vous votre campagne ?
J'ai créé mes sociétés à l'âge de 19 ans. J'ai travaillé. J'ai même bâti, si je peux dire ça, mon empire, avant même d'être politicien. Je finance ma campagne par mes propres moyens, mais il y a aussi, en fait, des gens de bonne volonté qui participent, qui financent en grande partie mes déplacements et ma campagne électorale.
Peut-on savoir le montant de vos financements propres pour votre campagne ?
Je n'ai pas encore chiffré, mais la loi l'exige, donc vous l'aurez certainement après les élections.
Bénéficierez-vous d'appuis financiers internationaux ?
Aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche des financements internationaux. Je ne suis pas à la recherche de financement. C'est pas avec le financement qu'on gagne des élections. C'est avec la conviction des uns et des autres. En fait, dans notre QG, la plupart, ce sont des volontaires. J'ai ma société de chaîne d'audiovisuel pour diffuser notre clip et notre publicité. J'ai ma société spécialisée également dans l'impression numérique grand format, qui imprime nos affiches grand format, nos bâches, nos décorations.
Vous dites l'argent n'est pas le nerf de la guerre, c'est la conviction. Néanmoins, beaucoup de vos concurrents critiquent très ouvertement le fait que des billets passent de main en main lors de vos meetings pour rémunérer certains des partisans.
Moi, je ne paye pas les gens pour pouvoir m'accompagner, contrairement à d'autres. les gens, ils font des efforts pour venir assister à mes meetings.
Andra Zoel, un sondage interdit il y a 10 jours, mais dont les résultats ont finalement fuité, vous donne favori pour le premier tour. Comment vous réagissez à cette information?
Je le savais, je suis favori. Et je dépasse largement mes concurrents. Et je sais que je vais gagner ces élections. J'ai la foi, j'ai la ferme conviction que je dois gagner. Et je vais tout faire pour convaincre la population à voter pour moi.
Andra Zoel, merci beaucoup.
Je vous remercie.